Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Que là, bah, j'avais un été de dispo, j'avais envie, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait un long voyage à vélo. Je me disais, ce quelqu'un, je le connais bien, c'est pas un extraterrestre, il l'a fait, donc s'il l'a fait, moi je peux le faire. Et donc je me suis lancé comme ça, quoi, mais sans réelle préparation. Hein. Moi, j'étais pas du tout un cycliste aguerri. Je me suis pas dit, j'ai pas le matériel, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, parce que pour moi, c'était, enfin, je l'ai réalisé un petit peu en y allant, mais pour moi, tout ça, c'est un peu des excuses, soit c'est des excuses qu'on se trouve pour dire que c'est pas pour soi ou que c'est pas le bon moment, et en fait, je me suis dit, bah non, j'y vais, quoi, et je me jette dans le vide et on verra ce que ça donne, et au pire, ça marche pas, et vraiment, c'est cette expérience-là, moi, qui a été un peu l'expérience déclic. Il y a eu 7 expéditions quand j'étais en Antarctique, on n'est que 2 à être arrivés au pôle, tellement les conditions étaient compliquées, et les 5 autres ont abandonné dans les 3 premières semaines à cause de cet enneigement inhabituel. Donc moi, si j'ai tenu le coup, c'est pas tellement parce que j'étais le plus musclé ou le plus préparé, parce qu'on était tous prêts à vivre cette aventure-là. Mais vraiment, les petits objectifs et le rêve très profond qui m'animait ont été les 2 seules choses qui m'ont aidé à tenir. Et puis le fait de savoir qu'il y avait du monde qui me soutenait et qui me regardait, c'était aussi une source de motivation. De moi-même quand je réalise que j'ai atteint le pôle sud, parfois je me réveille le matin et je prends dans la douche et j'y repense et je me dis c'était quand même dingue, c'était un peu comme dans un rêve.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vous présente un homme de 28 ans qui s'est donné les moyens d'accomplir ses rêves. Par son histoire et son parcours, il prouve au monde entier qu'on peut oser. Mathieu a toujours eu des rêves d'aventure, mais c'est l'été de ses 19 ans qu'il enfourche un vélo pour traverser l'Europe. Chaque année, il réalise une nouvelle aventure. Trail, marathon, tour du monde, transatlantique. Une fois diplômé d'un bachelor au King's College à Londres et d'un master à Sciences Po, Mathieu réalise un de ses plus grands rêves. Rallier le pôle sud géographique depuis la côte du continent antarctique en solitaire et sans assistance ni ravitaillement. À 28 ans, il devient le plus jeune explorateur au monde à accomplir cette expédition et rentre dans le livre des records. Bienvenue dans l'univers de Mathieu Tordeur.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors, j'ai choisi un carnet de notes un peu tout bête, qui est en fait un carnet que j'emmène dans toutes mes expéditions, dans toutes mes aventures. C'est un carnet un peu particulier parce qu'il est... Il est waterproof, il résiste à l'eau, il résiste aux déchirures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déchirer les pages de ce carnet. Et moi, je l'emmène à chaque fois que je pars à l'aventure pour noter les pensées qui me traversent, pour noter les points GPS importants, pour noter tout ce dont j'ai besoin pour mon aventure. Et ça me définit parce que c'est vraiment ce qui m'accompagne au quotidien dans ma vie de tous les jours, mais aussi quand je pars au bout du monde. Pour moi, c'est un des éléments ou un des objets les plus importants de mes expés.
Et c'est un cahier qui est en quelle matière, du coup, pour qu'il soit waterproof et indéchirable?
C'est un carnet de notes qui est assez petit, qui doit faire 15 cm de long sur 10 de large. Donc, on le tient facilement dans sa main, on peut le mettre dans sa poche. Il y a 50 pages environ, parce que j'en ai plusieurs, je les renouvelle régulièrement. Mais l'avantage, c'est que voilà, on peut le transporter facilement, le mettre dans sa poche.
Il est en quelle matière?
Et en matière, c'est du papier, comment on appelle ça? C'est du papier qui est protégé, j'imagine, avec un espèce de vernis ou quelque chose qui fait okay. qu'il n'est pas déchirable. Mais faudrait que je vérifie, mais c'est un papier waxé, je crois.
Tu me donneras la référence, je le mettrai sur le blog pour s'il y en a qui veulent devenir des aventuriers et même pour offrir aux enfants qui adorent jouer aux aventuriers dans la forêt.
Ça marche.
Où est-ce que tu es né?
Alors moi, je suis né en Normandie, je suis né à Rouen. C'est là que j'ai passé l'intégralité de mon enfance et de mon adolescence. Là, on s'appelle, moi je suis basé à Paris depuis quelques années, mais je suis né en Normandie et je suis un enfant de la Normandie parce que je suis parti de Normandie après mon bac.
Et t'as grandi dans le centre de Rouen ou plutôt dans la campagne rouennaise?
Non, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Mont-Saint-Aignan, qui est à quelques kilomètres de Rouen. J'allais d'abord dans mon école primaire qui était à Mont-Saint-Aignan et puis après au collège et au lycée à Rouen, mais c'est vraiment aux alentours de Rouen. Et j'ai grandi dans une famille de cinq, avec une grande sœur, un petit frère, dans une maison avec un jardin dans lequel je faisais des cabanes et dans lequel je jouais avec mes frères et sœurs. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu une attirance ou en tout cas un usage de la nature assez tôt, quoi. J'étais régulièrement à dormir dans le jardin, à faire des cabanes, une tyrolienne, etc. Donc j'ai grandi un peu en ville, un peu à la campagne, parce qu'on avait la chance d'avoir une maison avec un jardin.
Et tu étais un petit enfant aventurier. Tu étais quel type de petit garçon? Tu aimais quoi à l'école comme matière?
Je sais pas si, enfin, je pense que l'aventure, c'est quelque chose qui est venu un peu, enfin, j'étais pas prédestiné à faire des aventures tout de suite, quoi. Moi, j'ai grandi avec l'univers de Tintin, je le répète régulièrement, mais mes premières lectures, c'était des BD de Tintin et Milou, sauf que j'étais pas en CP quand je les avais dans les mains, donc je comprenais pas ce qui s'y passait, mais je voyais que ce personnage et ce petit chien, ils se baladaient aux quatre coins du monde, qu'ils allaient en Égypte, au Pérou, en Inde, qu'ils allaient sur la Lune, et moi, ça me fascinait, en fait, de voir ces aventures de Tintin, et je crois que ça m'a été une espèce d'inspiration assez tôt, parce que quand j'ai grandi, je me suis dit que je voulais lui ressembler, enfin, je disais à tout le monde que je voulais être reporter, mais tout ça s'est affiné aussi avec le scoutisme. J'ai été scout pendant 10 ans. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce qu'est le scoutisme, c'est pas que un mouvement religieux où on va vendre des gâteaux à la sortie de la messe. Moi d'ailleurs, c'était pas du tout l'aspect religieux ou spirituel qui m'attirait dans ce mouvement-là. Moi, ce qui me faisait marrer, c'était d'aller construire des cabanes, d'apprendre à faire des feux, d'aller me balader avec une boussole et à travers champs. Enfin, c'était vraiment ça moi qui me plaisait. Et donc ça a duré quasiment 10 ans, et je crois que ces apprentissages-là, en étant jeune, ont confirmé mon envie d'aller au-delà de ce que je connaissais dans la nature et d'aller explorer un petit peu les déserts, les montagnes, les océans.
Alors ça, on en parlera après. Du coup, à ce moment-là, quand tu étais petit, quand tu avais 6 ans, tu te disais « quand je serai grand, je ferai quoi comme métier ?» Donc Tintin était ton héros, mais est-ce que tu avais un métier de prédilection à ce moment-là?
Je disais reporter. Moi, je disais que je voulais être journaliste reporter comme mon héros qui était Tintin. Je crois qu'il y avait cette fascination pour le métier de reporter qui va aux quatre coins du monde rapporter l'actualité du front. Et donc, je disais que je voulais être reporter ou journaliste. Mais en grandissant, finalement, même si j'ai quand même fait un stage, mon stage de troisième, je l'ai fait dans une rédaction de télé, je me souviens, c'était chez France 3 Normandie à Rouen, une semaine, tu sais, le petit stage d'observation obligatoire quand on est en troisième. Donc ça résultait directement de mes envies de jeunesse. Mais après, en grandissant, en regardant d'un peu plus près le métier de journaliste, je me suis dit que j'allais explorer une autre voie pour plein de raisons.
Pourquoi, du coup?
Mais je sais pas bien, je crois que... Je crois que c'était je me suis dit que c'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux, dans la mesure où c'était quand même une voie professionnelle qui était difficile. Alors c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas se lancer, mais finalement il y avait beaucoup de barrières à l'entrée. Je trouvais que comme les photographes, il y en a beaucoup et c'est difficile d'émerger, de sortir de la masse. Et je me disais je vais mettre ça de côté et peut-être explorer quelque chose d'un peu plus atypique. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression, avec mon activité actuelle dont on va parler, de faire d'une certaine façon un peu du journalisme. Alors je suis pas journaliste de métier ni reporter, mais comme je raconte des histoires et comme je rencontre d'histoires qui me sont arrivées ou qui sont arrivées aux autres, j'ai l'impression à ma façon de partager des histoires et donc d'avoir un métier un peu de reporter.
Et tes parents, ils font quoi comme métier?
Alors j'ai grandi dans une famille de 5, comme je te le disais, avec des parents qui sont tous les deux médecins. Ils sont tous les deux médecins spécialistes, ma maman dermatologue, mon papa rhumatologue. Par leur métier, ils ont... Enfin, je les ai toujours vus beaucoup, beaucoup travailler. beaucoup prendre de vacances aussi, ce qui est l'avantage aussi quand on est médecin indépendant, où on peut disposer un peu de son temps. Il ne travaille pas à l'hôpital, il travaille dans une clinique. Mais si je raconte ça, c'est que j'ai toujours vu beaucoup mes parents travailler et nous dire que, à ma grande sœur et à mon petit frère, que le travail, c'était une source de liberté et que c'était vraiment important. Donc, ils nous ont beaucoup poussé, en fait, quand on était jeunes, à bien faire nos devoirs, à apprendre des langues étrangères. Et donc, je dirais qu'on a reçu une éducation, pas stricte, mais une éducation où voilà, on nous inculquait bien la valeur du travail et les valeurs de la curiosité en touchant un peu à plein de choses. Et j'ai vu mes parents partir beaucoup à l'étranger pour leur métier ou pour leur plaisir. Ma maman, pendant 10-15 ans, elle partait tous les ans pendant un mois au Vietnam faire de la médecine humanitaire.
Et puis c'est costaud quand même quand t'as trois enfants
partir. C'était mon père qui s'occupait de nous à plein temps. Et puis après, c'est les deux parents qui sont partis. Où là, c'était les grands-parents qui venaient s'occuper de nous. Mais c'est quelque chose qu'ils faisaient comme ça tous les ans. Et ils le faisaient parce que pour eux, c'était une façon de pratiquer leur métier un peu différemment, de voir des pathologies qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir en France. Moi, j'ai grandi avec mes parents qui avaient cette envie d'ailleurs, ou en tout cas cette curiosité pour le monde qui nous entoure, qui, moi, m'a inspiré d'une certaine façon. Donc j'ai grandi dans une famille où on voyageait.
D'accord. Et donc là, du coup, t'as ton bac, tu te dis, bon, je veux être journaliste, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Du coup, quelle voie tu décides de prendre pour tes études?
Alors, ça se fait pas si facilement que ça. J'étais plutôt bon élève. Et donc, je préparais le concours pour entrer à Sciences Po en première année. Et donc, j'étais dans une... je suivais un cours préparatoire en même temps que ma terminale. Et d'une manière peut-être un peu arrogante ou un petit peu sûre de moi, comme ma sœur avait eu concours deux ans avant moi et que j'avais ses cours et que je me débrouillais plutôt bien dans la prépa, j'y suis allé en me disant que il y avait pas de raison. Et finalement, moi, je me suis rétamé, mais violemment, parce que je l'ai pas eu du tout, le concours. C'était aussi l'année où le concours changeait complètement. Donc bon, on était préparé pour un concours de l'année d'avant, mais qu'importe. Toujours est-il que je l'ai pas eu. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu comme un con parce que j'avais pas prévu grand-chose d'autre, quoi. Pour moi, c'était Sciences Po, c'était les doigts dans le nez. Et donc ça a été un vrai retour à la réalité parce que je me suis retrouvé dans une position où, en fait, j'avais pas tellement préparé autre chose que Sciences Po. Et donc, en fait, j'ai terminé par commencer une fac de droit au Havre, donc toujours en Normandie. Et c'était du droit anglo-américain et du droit français. Et finalement, ça m'a pas plu parce que ça me correspondait moins. Et en fait, j'étais pas très heureux au Havre. Et donc, j'ai cherché des moyens de me sortir de cette fac de droit et j'ai postulé à des universités en Angleterre. J'avais la chance d'avoir un bon niveau d'anglais parce que j'avais pris un petit peu plus de cours d'anglais que mes camarades au lycée parce que j'étais dans une classe européenne ou anglophone, je sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Et du coup, j'étais assez à l'aise en anglais pour être confiant pour me dire je peux peut-être postuler à des universités en Angleterre. Et j'ai eu la surprise d'être pris très tôt dans une fac qui s'appelle King's College à Londres. Et donc, quand j'ai reçu cette réponse, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la fac de droit. J'ai travaillé en tant que serveur dans un restaurant de plage au Havre pour gagner un petit peu de sous et pour montrer à mes parents que je pouvais subvenir à mes propres besoins et que même si j'arrêtais mes études, je restais quelqu'un de courageux. Et voilà. Et puis, c'était génial de bosser dans ce resto. Et j'ai commencé après mes études en Angleterre pour un cursus qui n'était pas une année d'échange. C'était vraiment un diplôme. Ouais.
Du coup, c'était pas un double diplôme, c'était vraiment 100% diplôme anglais, quoi.
Voilà, qu'on appelle bachelor. C'était un parcours qui durait 4 ans, avec 3 ans à Londres et 1 an à Berlin, en Allemagne.
Okay. C'était quoi ? C'était une espèce d'école de commerce anglaise ?
Alors, c'était plutôt, c'était plutôt tourné autour de la géopolitique et de la science politique. Même le parcours s'appelait affaires européennes. Donc, en fait, c'est tout ce qui touchait un petit peu à la construction européenne, un petit peu d'économie, un petit peu de géographie, un petit peu d'histoire. Les Anglais, ils aiment bien faire des programmes un petit peu transversaux comme ça. Maintenant, ça me fait un petit peu sourire que j'ai fait ce diplôme-là parce que quand on voit le Brexit et ce qui se passe avec l'Union européenne, me dire que j'ai un diplôme sur l'Union européenne que j'ai eu à Londres, en Angleterre, voilà. Mais c'était très intéressant et surtout, ça m'a fait découvrir voilà, les universités anglaises, rencontrer plein d'étudiants qui viennent enfin, en fait, de toute la planète, quoi, parce qu'il y a à King's College, il y a 40 000 étudiants, ça brasse vraiment plein de profils différents. Et puis, bah, ça m'a fait apprendre l'anglais, l'allemand, parce que cette troisième année à Berlin, et c'était vraiment génial. Et voilà, donc finalement, l'échec à Sciences Po en première année était une bénédiction, parce que j'ai vraiment passé 4 très très belles années là-bas.
Souvent, on dit que, qu'en fait, rien n'arrive par hasard et quand il y a un truc, on s'attendait à l'avoir, qu'il y a toujours un truc mieux qui nous attend derrière.
Ben oui, je pense que c'est assez vrai. Après, c'est toujours difficile de se faire cette réflexion-là quand l'échec, quand le mur arrive tout de suite, parce que bon, il faut savoir rebondir. Moi, c'était plein d'enseignements. Si j'ai raté le concours, c'est parce que j'étais trop confiant, j'étais trop sûr de moi, j'étais probablement pas préparé pour le concours vraiment de l'année en question. Et puis c'était bien. Du coup, ça m'a fait explorer quelque chose de différent. Je serais peut-être jamais allé en Angleterre, j'aurais peut-être jamais fait les rencontres que j'ai faites. Bon, on peut retourner probablement dans tous les sens. Hein. Ouais. Oui, à Sciences Po, j'aurais pu être très heureux aussi. Et puis d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai terminé mes études en faisant un master à Sciences Po, à Paris, dont je suis diplômé depuis maintenant 2 ans.
D'accord. Et alors du coup, à ce moment-là, pareil, tu te dis quoi, est-ce que plus tard, il va falloir trouver un job? Qu'est-ce que tu t'imaginais à cette époque-là?
En fait, j'ai fait ces études-là parce qu'elles m'intéressaient, parce que j'étais très heureux de m'expatrier, parce que j'étais à l'aise avec les langues étrangères, parce que pour moi, c'était une aventure que de partir, parce que c'était un moyen de démarquer aussi de ma sœur, de faire quelque chose d'un petit peu différent. C'était un peu partir à l'aventure, quoi. C'est-à-dire qu'on déménage en Angleterre quand on a 19 ans, commencer un cursus dans une langue qui est pas la sienne. Ça, c'était quelque chose qui je valorisais beaucoup et qui m'intéressait beaucoup. J'avais pas d'idée préconçue du job que je voulais faire, mais les Anglais ils sont assez intéressants là-dessus dans le monde éducatif, parce que on fait pas des études pour un métier, sauf si évidemment on veut devenir avocat ou médecin. Mais par exemple à la City en finance, il y a beaucoup de gens qui bossent là-bas qui ont des diplômes de géographie. Enfin, on valorise beaucoup plus l'individu, on valorise beaucoup plus le savoir-être, les compétences générales plutôt que des
avec les diplômes et les cases françaises.
Ouais, exactement. Ouais. Et donc ça m'a un peu ouvert l'esprit quand même. Et donc j'y suis allé. Enfin, j'ai appris en étant là-bas, mais j'y suis allé surtout en fait pour m'ouvrir l'esprit, pour faire plein de choses à côté. Et puis j'avais la chance d'avoir beaucoup de temps l'été, en fait, à Londres, à King's College. On avait la possibilité de faire des stages l'été, mais on avait aussi la possibilité d'utiliser nos étés comme on voulait. Et donc, on pouvait partir à l'étranger en mission, on pouvait faire du bénévolat, c'était des choses qui étaient valorisées et encouragées par l'université. Et moi, j'essaie de me créer mes propres activités en commençant à faire des expéditions. Au lieu de partir en stage pendant 4 mois l'été, ce qui m'est arrivé évidemment, mais je travaillais un petit peu dans un resto pour gagner un peu de sous, et avec ces sous-là, je partais à l'aventure à vélo, en stop, je multipliais les expériences d'exploration. Comme ça, j'ai traversé l'Europe à vélo tout seul.
Ta première expédition, c'était après le bac, tour de l'Europe à vélo.
Exactement, ouais. Ouais.
Comment ça s'est venu l'idée de te dire je vais faire le tour de l'Europe à vélo?
Alors c'était un petit tour d'Europe. Je suis parti de Hongrie, donc de Budapest, la capitale hongroise, pour aller jusqu'à Istanbul en Turquie. Moi, j'ai toujours été fasciné par les points un peu extrêmes ou les points un peu évocateurs de notre géographie, et me dire que j'allais aller en Asie à vélo, ou en tout cas atteindre le continent asiatique sur mon vélo, c'était quelque chose qui me faisait lever la nuit. Donc je me suis dit, voilà, Istanbul, ce sera le point d'arrivée. Après, je pourrais pas partir de France parce que j'aurais pas le temps de faire toute cette route, donc j'ai décidé de partir de Budapest parce que c'était des pays que je connaissais pas du tout, et je rentrais tout de suite dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce qui m'a fait partir, en fait? C'est plutôt de me dire qu'il y aurait jamais de bon moment pour partir à l'aventure, que là, j'avais un été de dispo, j'avais envie, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait un long voyage à vélo, je me disais, ce quelqu'un, je le connais bien, c'est pas un extraterrestre, il l'a fait, donc s'il l'a fait, moi je peux le faire, et donc je me suis lancé comme ça, quoi, mais sans réelle préparation, hein. Moi j'étais pas du tout un cycliste aguerri.
Oui, c'était la question que je voulais te poser, t'avais déjà un vélo ou même pas?
Mais alors même pas, le vélo, je l'avais emprunté à cette personne dont je te parle, il m'avait filé ses sacoches de voyage. Moi, j'avais une tente, une polaire, un sac de couchage et j'ai acheté un réchaud chez Decathlon et je suis parti, quoi. Et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est pas sorcier, quoi. J'ai déjà fait 50 km d'affilée à vélo. Bah, là, j'essaierai d'en faire un peu plus tous les jours. Et puis, quand je suis fatigué, je m'arrêterai et on verra bien, quoi. Je me suis pas dit, j'ai pas le matériel, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Parce que pour moi, c'était, enfin, je l'ai réalisé un petit peu en y allant. Mais pour moi, tout ça, c'est un peu des excuses, quoi. C'est des excuses qu'on se trouve pour dire que c'est pas pour soi ou que c'est pas le bon moment. Et en fait, je me suis dit, bah non, j'y vais, quoi. Et je me jette dans le vide et on verra ce que ça donne. Et au pire, ça marche pas. Et vraiment, c'est cette expérience-là, moi, qui a été un peu l'expérience déclic, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'en faire beaucoup d'autres après. Et d'ailleurs, l'année suivante, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai traversé.
Juste avant qu'on parle de l'année suivante, comment ils ont réagi, tes parents et ton entourage, quand tu leur as dit je pars faire du vélo?
Ils étaient un peu surpris, pas par le voyage à vélo en tant que tel, mais plutôt surpris par l'idée d'y aller tout seul. Ça les rassurait pas beaucoup. Moi, c'est vrai que j'avais 19 ans, j'avais jamais fait de vélo, j'avais pas vraiment voyagé tout seul avant, et des parents sont forcément un petit peu inquiets de laisser leur enfant partir, même s'il a 19 ans, tout seul. Et donc, ça les interrogeait un petit peu, l'idée de me voir partir tout seul et à vélo en plus. C'était quelque chose qui était un petit peu curieux pour eux, mais ils comprenaient l'idée d'aller partir en voyage. C'est quelque chose aussi qu'ils avaient fait étant jeunes. Donc ça, ils m'ont pas freiné, ils m'ont pas découragé, ils m'ont juste demandé de partir avec un téléphone portable, de donner des nouvelles, d'être prudent. Mais voilà, c'est quelque chose qui les a étonnés. Et ça a continué de les étonner après, hein, parce que pour les autres aventures, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui fait ce garçon? C'est le seul des trois qu'on a raté. je plaisante, mais ça les a étonnés, le côté solitaire les a étonnés.
Ouais, parce que tu dis, tu as un site internet qui est extrêmement bien fait. Enfin, c'était une question d'ailleurs, un sujet dont je voulais qu'on parle, parce que tu disais justement tout à l'heure que tu avais un côté un peu reporter finalement aujourd'hui. C'est toi qui écris toute ton histoire ou tu as une boîte derrière qui t'aide à raconter tes histoires?
Non, c'est intéressant cette question, parce que ça voudrait peut-être dire justement qu'on a l'impression qu'il y a toute une équipe derrière, mais je le prends comme un compliment. Non, c'est moi qui écris tout ça, qui fait toutes les photos, toutes les images, toutes les vidéos. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Le fait de ramener des histoires, de les écrire, de faire des reportages photos, des vidéos, des films, c'est un moyen de rendre toutes ces expériences réelles, et puis surtout de les partager. Si je vivais tout ça que pour moi, bon bah génial, mais pour en faire un métier et pour essayer de faire du divertissement d'une certaine façon, il faut ramener des images. Et donc tout ce qui est sur le site, non, c'est vraiment le fruit de mon travail.
Franchement, je me suis dit, il a fait bosser une agence de com, ils sont super doués, donc normalement tu peux le prendre en effet comme un compliment. Enfin, je vous invite à aller voir le site de Mathieu, parce que franchement c'est hyper chouette, enfin la façon dont tu racontes l'histoire. On a un peu là, on a, et puis ce que j'ai adoré, c'est que c'est hyper concret en fait. Tu dis, bah voilà, je suis partie avec ce matériel là, enfin bon, moi je suis pas du tout aventurière, mais pas du tout pour un sou, hein. et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, si j'étais aventurière, bah je saurais comment faire. Alors pas forcément traverser l'Antarctique, mais moi ouais, c'est vraiment chouette. Et puis on sent vraiment que t'as un sens graphique. Tu dis d'ailleurs sur le site que tu aimes beaucoup la photographie. Et ça se ressent, c'est chouette.
Bah, tant mieux. L'idée, c'était vraiment ça. Au début, le site internet, c'était vraiment une forme de carnet de bord. On en revient un petit peu au petit carnet que j'emmène partout. Je le faisais pour moi parce que c'était un moyen de centraliser un petit peu toutes mes photos, toutes mes petites vidéos, toutes mes petites histoires. Et puis, je me disais, voilà, je le fais pour moi, comme ça, c'est là. Et puis, si ça intéresse les gens, eh ben, je le mets en accès public. Et puis, vient qui veut découvrir ses voyages et ses aventures.
Et donc, du coup, tu disais, donc, premier voyage, donc le déclic où tu t'es dit, allez, c'est le premier. Est-ce que tu as eu des peurs, des moments où tu te dis, mais je suis complètement tarée, j'aurais jamais dû partir?
Oui, forcément, surtout pour le premier voyage, on n'est pas serein, on n'est pas confiant. Je me souviens, je partais de Budapest, je me disais, mais dans quelle merde je me suis foutu, quoi. Quel est ce truc que je me suis construit, que je me suis inventé? C'est un peu délirant, quoi. Mes copains sont tous en vacances en Bretagne, on est en plein mois de juillet, moi je suis tout seul dans la banlieue hongroise. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais j'essaie de me convaincre que voilà, c'est mon choix, que ça va être bien, que ça va être intéressant, que ça va être nouveau, que je vais apprendre plein de trucs. Et donc là, je me fais un peu violence. Et en fait, je me rassure au fur et à mesure des jours et des heures passées sur le vélo, parce que bah, finalement, je suis toujours en bonne santé, je suis en vie, je fais des rencontres, j'avance, je suis pas blessé. Et puis finalement, je fais plein de... Enfin, sur le bord de la route, il y a plein de gens qui sont étonnés de ma présence parce que je suis tout seul, parce que j'ai l'air jeune. Et puis, avec des mots d'anglais, on parvient à communiquer, je me fais inviter à droite, à gauche. Et en fait, je me sens de mieux en mieux dans mon voyage, quoi. Et puis, au bout de 3 semaines, j'arrive à Istanbul et j'ai vécu un truc de fabuleux, quoi, dont moi je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et puis surtout, ça a été vraiment le point de départ de plein d'autres aventures. Donc évidemment, il y a de la peur, il y a du doute, il y a de la crainte, il y a des angoisses, etc. Mais je crois qu'il faut, parvenir à les surmonter. Il faut s'être bien préparé, je pense, dans sa tête avant, c'est-à-dire de bien avoir visualisé le voyage, d'avoir parlé à des gens qui l'ont fait, d'avoir... Bon, le matériel, c'est une chose, mais il faut s'assurer quand même d'avoir l'essentiel et le principal. Et puis, bah, une fois qu'on est sur la route, il faut faire confiance et tout n'est qu'inertie, c'est-à-dire qu'on roule un petit peu, on s'arrête quand on est fatigué, on reprend le lendemain et puis bah, finalement, on a déjà fait un pays, la Hongrie, c'est pas très grand, et puis on enchaîne sur la Roumanie, la Bulgarie et on arrive... à Istanbul.
Justement, ce que tu disais, je pense que c'est un truc qui est hyper important que je remarque dans tous les invités que j'ai eu la chance d'interviewer et que j'ai pratiqué également moi-même dans ma vie, et qui est un super conseil, c'est de dire, vous voulez faire un truc, contacter des personnes que vous ne connaissez ou pas, d'ailleurs on s'en fiche, et des gens qui ont déjà fait la chose pour poser des questions, et ça permet d'avancer plus rapidement, en fait.
Ouais, bien sûr. En général, les gens sont bienveillants et tout dépend comment la question est posée. Si on pose des questions dont on peut avoir la réponse sur Internet ou sur Google, ça peut être un peu frustrant. Mais si on pose des questions précises à des gens qui sont passés exactement par ce chemin de vie ou ce chemin de réflexion, en général, les gens sont heureux de partager leur expérience. Enfin, moi, il y a même des personnes, moi, qui me contactent avec des questions précises sur Antarctique. Je suis ravi de pouvoir y répondre. Et moi, j'ai été dans cette position-là. Et donc, je trouve que c'est important de ne pas avoir peur de demander. On n'en est jamais ridicule. On a tous été, toi ou moi, débutants à un moment dans notre vie. J'imagine toi quand tu as commencé le podcast, moi quand j'ai commencé mes expéditions. Et voilà, faut prendre un peu de hauteur et de recul. Et voilà, on est solidaires. Et je pense que les gens aiment bien justement partager leur expérience quand ils le peuvent. Quand.
Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, tu as ton déclic, tu continues dans tes études. Mais par contre, tous les étés, j'imagine, tu profites de ce moment-là pour te lancer des nouveaux défis, parce qu'en fait, à chaque fois, tu changes de moyen de locomotion.
Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un spécialiste de rien. J'ai fait un petit peu de vélo, un peu de voile, un peu de 4L, un peu de...
Quand tu dis un petit peu, à chaque fois, c'est un petit peu à base de 4 km, quoi.
Oui, c'est vrai. Je devrais modérer. Tout est relatif. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été un spécialiste de la course à pied ou un spécialiste du vélo de voyage ou un spécialiste du ski pull car. Alors, c'est vrai que les distances ont pu varier, mais je me suis jamais spécialisé dans un seul domaine. Moi, ce qui m'amusait, c'était de multiplier un petit peu les moyens de locomotion dans des géographies différentes. Et donc, effectivement, après ce voyage à vélo en Europe, je me suis concentré sur une transatlantique. Moi, je rêvais de traverser l'Atlantique à la voile, sauf que j'étais étudiant. Alors, évidemment, je n'avais pas de bateau, je n'avais pas non plus de moyens financiers délirants. Et donc, la façon la plus facile pour moi à l'époque pour traverser l'Atlantique, c'était en fait de rechercher sur Internet des gens qui avaient des bateaux et qui cherchaient des équipiers pour ramener leur bateau soit en Europe, soit dans les Caraïbes. Et donc, j'ai trouvé une petite annonce d'un skipper britannique de 75 ans avec une barbe blanche, tout ce qu'on peut imaginer d'un vieux loup de mer, qui cherchait des gens pour ramener son bateau de Guadeloupe jusqu'en Angleterre. Et moi, je cherchais ça au lieu de réviser mes examens de fin d'année, parce que quand j'ai une idée dans la tête, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et finalement, ce skipper me répond en me disant génial, quelle est ton expérience de voile? Je dis, et c'était vrai, j'ai fait un peu de voile légère en Bretagne parce que mes grands-parents y sont installés, donc tous les ans je fais un petit peu de voile, mais j'ai jamais fait de longue navigation, donc je raconte quand même mon histoire à vélo en disant que j'ai quand même traversé l'Europe à vélo, même si ça n'a aucun rapport, ça montre que je suis un peu débrouillard, etc. Et finalement, il se prend d'amitié pour moi, on se fait 2-3 Skype, et puis à un moment, il m'envoie un mail en me disant, écoute, welcome on board, quoi, bienvenue à bord, rendez-vous à l'aéroport de Fort-de-France en Martinique. à telle date. Et donc, je prends un billet d'avion aller pour la Martinique. Et puis...
Ah, du coup, c'est lui. Enfin, je connais quelqu'un qui a fait ça aussi. C'est, ouais. C'est quelque chose où finalement, t'es rémunéré pour faire ça?
Alors, non. Moi, la seule dépense, c'était l'avion aller. Je me souviens, ouais. C'était 350€ aller sur Air Caraïbes. Donc, tout l'argent du monde pour moi à l'époque. Mais la contrepartie, c'était que pendant 6 semaines de retour, de traversée, en fait, tout était pris en charge par le skipper jusqu'à mon retour en Normandie. Donc, je dépensais pas l'argent pour la nourriture. J'étais pas rémunéré pour le passage. Après, j'étais pas très compétent. Je veux dire, j'avais pas de compétences de voile qui auraient justifié un salaire. Mais voilà, moi, je devais prendre les cars comme tout le monde, faire un peu la bouffe comme tout le monde à tour de rôle. Et surtout, c'était une expérience magique, quoi, de traverser l'Atlantique pendant 6 semaines avec un équipage que je connaissais pas. On était plusieurs sur le bateau. Ouais, ça, j'en garde aussi un souvenir fabuleux. Donc, en fait, les premières aventures, c'était un petit peu de briquet de broc, quoi. J'empruntais un vélo, je rejoignais un bateau, mais au fur et à mesure de ces aventures-là, j'accumulais de l'expérience qui me donnait un peu plus confiance en moi, en mes capacités à faire des expéditions un peu plus grandes. Surtout, j'apprenais des autres, et donc ça m'a permis de progresser et d'avancer tout en restant étudiant.
Ouais. Et donc, à partir de quand tu as fait, donc tu as quitté Sciences Po il y a 2 ans? Ouais. Là, à ce moment-là, tu t'es dit, bon, je veux arriver à vivre de mes expéditions?
Alors, un petit peu, mais en fait, après ces 2 aventures-là, j'ai voulu monter une aventure encore plus grande, enfin vraiment plus grande, et qui soit de ma propre initiative. Et donc là, j'ai mis entre parenthèses mes études pendant 1 an. Donc à King's College, j'ai arrêté pendant 1 an avec l'accord de l'université. Et avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas, avec qui on a été scout pendant 10 ans, on a monté un projet pour faire un tour du monde avec une 4L. Au profit d'une cause qui était la microfinance. Alors, pour faire simple, on avait réuni des fonds avec des partenaires, des sponsors pour soutenir des micro-entrepreneurs à travers le monde. Les micro-entrepreneurs, en fait, sont des gens qui n'ont pas accès au crédit parce qu'elles sont trop pauvres et que les banques leur font pas confiance pour démarrer des activités génératrices de revenus. Et donc, il y a plein d'institutions aujourd'hui qui les aident. Et donc, notre projet avec Nicolas, c'était de rendre visite à ces micro-entrepreneurs et d'y aller en 4L. D'accord. Et donc, ce projet, on l'a monté pendant notre année d'études, en même temps que nos études. Et on est parti l'année suivante, en 2013-2014, d'abord de Normandie vers l'Est. On est parti vers la Turquie, vers l'Iran, vers l'Inde. Et une fois qu'on est arrivé en Inde, on a envoyé la 4L aux États-Unis, donc en Californie. Et de Californie, on est descendu jusqu'au Brésil en suivant la route panaméricaine, donc à travers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et au Brésil, on a trouvé un porte-container sur lequel on est monté avec la 4L qui nous a déposé à Dakar, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et là, on est remonté via la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, jusqu'en France. Donc, c'était un long voyage d'1 an.
Ça fait 1 000 km.
Ouais, exactement. Ouais, peu un voyage vraiment un peu à la manière des croisières jaunes, croisières noires des années 30, quand Citroën envoyait des équipages traverser des continents entiers. Nous, on l'a fait en 4L. Ce qui nous fascinait avec Nicolas, c'était vraiment de faire le tour de la Terre en essayant de rouler le plus possible avec notre 4L et puis de se rendre un petit peu utile à notre mesure, évidemment, avec ce projet de microfinance qui était vraiment le fil rouge, qui était la motivation derrière ce voyage-là, qui nous aidait à avancer parce qu'on avait des rendez-vous avec ces micro-entrepreneurs.
Alors, vous aviez pris du coup en amont les rendez-vous?
Ouais, on travaillait avec 2 ONG françaises parce que nous, on n'était pas des spécialistes du microcrédit ni de la microfinance, donc on s'est fait accompagner évidemment par des professionnels du milieu pour que le projet fonctionne, parce qu'on avait quand même 25 000 € qu'on nous avait confiés par des bailleurs de fonds privés et publics pour faire ce projet-là. Et donc, on avait des partenaires solides à la fois en France et sur le terrain. Et donc, cette aventure-là, pour répondre à ta question, c'était une aventure qui a un peu tout bouleversé, qui a un peu rebattu un peu les cartes, parce qu'elle a été beaucoup suivie, elle a été un peu médiatisée. Et on a fait un film et un livre en rentrant, alors que c'était pas du tout prévu au départ. Nous, Nicolas et moi, on a fait plein d'images parce que moi j'aime ça et parce qu'on tenait un peu au courant nos proches, notre famille, nos partenaires et nos sponsors de notre aventure. Mais on s'est dit en rentrant que, on avait envie d'essayer de le partager au plus grand nombre, et on en a fait un film qui a gagné un prix, qui est passé à la télé. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça, moi, que j'aime faire. C'est des images, raconter des histoires. histoires, aller dans les endroits un peu lointains. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer mes études, mais quand j'aurai fini, je vais vraiment essayer d'exploiter un petit peu cette fibre aventure et de la transformer en un métier. Alors, c'est pas évident, il n'y a pas de voie toute tracée, mais en tout cas, j'avais trouvé là ma véritable envie, vraiment ce qui me faisait vibrer, c'était ça.
Et du coup, à ce moment-là, tu te renseignes, parce qu'il y a des explorateurs, il n'y en a quand même pas tant que ça, hein, dans le monde et en France. C'est la grande question, c'est comment on arrive à vivre en tant qu'explorateur, en fait.
En fait,
financièrement, c'est bien entendu.
Ouais, c'est compliqué, parce que aujourd'hui, l'exploration, elle change un petit peu d'échelle. On n'est plus comme il y a 200 ans où on pouvait être financé par un État, par un gouvernement, par une boîte pour aller planter un drapeau quelque part. Donc l'exploration, elle change un petit peu d'échelle. Et quand on veut en faire un métier, c'est pas évident parce que il faut avoir plusieurs casquettes. Moi, je parle pour moi. Je suis spécialiste de rien, c'est-à-dire que je suis pas un écrivain, je suis pas un scientifique, je suis pas un photographe. Enfin, je suis un petit peu les deux, mais sans jamais que ce soit mon activité principale. Et donc il faut, pour gagner sa vie, il faut apprendre à toucher un petit peu à tout. Ce qui est le plus rémunérateur aujourd'hui, ce sont les interventions soit dans le milieu scolaire, soit en entreprise. Enfin, c'est plus rémunérateur en entreprise que dans le milieu scolaire, mais ce sont les conférences. Ouais. C'est ça qui permet vraiment de payer les factures, un loyer et de continuer ses activités. C'est pas comme ça qu'on fait fortune. Il y en a que très très peu, hein, qui gagnent beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Je pense que de toute façon, si c'est la motivation, il faut se réorienter. Mais ça permet de vivre. Après, c'est difficile d'arriver à en vivre parce qu'encore une fois, c'est pas une activité qui est très ciblée. Et moi, je pense que c'est mieux d'avoir une activité principale qui permet de se rémunérer et d'utiliser cette activité principale pour partir à l'aventure. Typiquement, on est photographe et on va rejoindre des expéditions et ça permet d'assouvir cette envie d'ailleurs et d'exploration. Et puis à côté de ça, on peut continuer de faire des photos de journalisme ou de mode ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est des métiers qui sont compliqués. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'écrivains, voyageurs, aventuriers que d'aventuriers au sens premier du terme. Quoi. Il y a beaucoup d'athlètes, de sportifs aussi qui font de l'aventure, mais être 100% aventurier aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut savoir faire des films, savoir faire des conférences, savoir écrire un petit peu. C'est comme ça qu'on arrive à en vivre, à moins d'être vraiment très spécialiste, d'être le meilleur dans son domaine.
Ouais. Donc toi, du coup, ce qui fait ta force, c'est que comme tu disais, t'es un généraliste, t'es pas spécialiste, mais comme t'es généraliste, t'as pas besoin d'une boîte de prod pour produire tout ce que tu dois faire derrière, quoi.
Non, alors je me fais accompagner parfois par des boîtes de prod pour faire des films, parce que c'est quand même, tu vois, on en revient encore à la spécialisation, quoi. Eux, c'est leur métier, ils savent parler à des chaînes de télé, ce que je sais pas forcément faire. Et donc chacun a un petit peu son savoir-faire. Moi, je peux être un peu le chaînon manquant entre les scientifiques et le grand public, c'est-à-dire que je peux, par exemple, aller en Antarctique, vivre mon expédition et expliquer un petit peu ce qu'est l'Antarctique, en quoi c'est important de le préserver, sans avoir une stature de scientifique que je suis pas, mais je peux, avec mes images, ma personnalité, mon aventure, raconter quelque chose qui me dépasse. Mais voilà, j'aurais toujours besoin des scientifiques pour m'expliquer les phénomènes sur place. Si j'avais envie de faire un documentaire sur le scientifique sur l'Antarctique, j'aurais besoin d'une boîte de prod pour faire le film et le vendre. Mais je pense que non, ma force réside peut-être en ma capacité à joindre tout ça et à communiquer dessus et à rendre le tout cohérent avec mes différentes expériences. Mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe tout au long du parcours, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que je compare un petit peu mon activité, mon métier à celle d'un artiste. C'est peut-être le métier défini duquel je me sens le plus proche, parce que il faut se réinventer, parce que quand on crée une expédition de A à Z, et ben on sait pas exactement où on va. C'est comme quand on commence un tableau. Alors moi, je suis pas du tout artiste, je fais pas de peinture ou de musique, mais j'imagine que quand on crée un morceau de musique, quand on crée une sculpture, et ben on a une idée et puis après on laisse un peu libre cours à l'imagination, à son inspiration. Mais moi, je me sens assez proche de cette façon de voir les choses.
Ouais. Et du coup, donc tu as fait plein de choses, hein. Tu as fait le tour du monde en 4L, tu as fait des marathons, tu as fait du canoë. Ouais. Et la chose la plus folle que tu aies faite, c'est donc la traversée de l'Antarctique.
Ouais, Je suis parti, effectivement, c'était ma dernière expédition qui était peut-être la plus ambitieuse, la plus dingo, qui était de partir de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. Donc c'est une aventure qui fait 1150 km de long. Pour donner une idée, c'est la distance à vol d'oiseau entre la Corse et Lille, dans le nord de la France. Et tout ça, je l'ai fait tout seul et sans assistance, c'est-à-dire que j'avais pas de chien de traîneau ou pas de voile de traction, pas de kite avec moi qui aurait pu me propulser avec l'énergie du vent. Je marchais avec mes skis et un grand traîneau dans lequel il y avait toute ma nourriture, tout mon équipement pour 2 mois, parce que j'ai passé 51 jours au total à marcher.
Sachant que tu t'étais fixé 50 jours.
J'avais fixé 50 jours de nourriture, parce que quand on part sans assistance, on n'a pas de ravitaillement de nourriture tout au long du chemin. Donc j'avais emmené tout ce dont j'avais besoin pour 50 jours. Et finalement, j'ai mis 50 jours et 3 heures très précisément. Donc je l'ai arrondi à 51 jours, parce que quand je suis arrivé au pôle, j'étais dans ma 51e journée. J'aurais pu dire 50 jours, mais ça s'est pas passé comme prévu, parce que il y a eu beaucoup de chutes de neige qui étaient assez inhabituelles. Et donc finalement, il a vraiment fallu beaucoup plus marcher, ou skier, la journée que ce que j'avais anticipé.
Donc là, du coup, parce que ce que tu disais, c'est bon, il y a eu c'est le réchauffement. J'imagine que c'est lié au réchauffement climatique. D'ailleurs, Mike Horn qui est parti là cet hiver a fait les frais également. Mais bon, du coup, le réchauffement faisait que les conditions n'étaient pas du tout celles que tu avais imaginées en termes de qualité de neige. Et tu disais donc sur ton site qu'en fait, tu t'es retrouvé à être très en retard au début de ce que tu t'étais fixé. Comment t'as vécu ce moment-là?
Tout à fait. En fait, moi, j'avais prévu 50 jours de nourriture. Au fond de moi, je le disais pas trop, mais j'estimais mettre entre 40 et 45 jours pour atteindre le pôle. On prend toujours environ 10% de marge de manœuvre. Mais je pensais jamais mettre 50 jours et 3 heures. Et en fait, si j'ai été si lent, c'est parce que la saison dernière, quand j'étais en Antarctique, je suis parti en novembre 2018. À ce moment-là, il faisait très chaud, en fait, en Antarctique. Et quand je dis très chaud, c'est qu'il faisait 20 degrés au-dessus des normales, des températures normales. Donc, au lieu qu'il fasse moins 30 degrés, il a fait pendant 3 semaines entre moins 5 et moins 10 degrés. Et on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour quand on fait une expédition, parce qu'on peut se dire, c'est bien, il a eu moins froid que prévu. Mais en fait, ces températures chaudes, elles ont précipité beaucoup de neige sur le continent, parce qu'il y avait des masses d'air chaude au-dessus du continent antarctique qui contenaient beaucoup d'humidité. Et ça, c'est transformé en neige. Et en fait, ça peut être difficile à concevoir, mais l'Antarctique, c'est le continent le plus sec du monde. Donc, il n'est pas censé neiger, il y a très peu de précipitations. Et là, en fait, moi, je recevais 20-30 cm de neige fraîche qui tombait tous les jours. Et donc, cette neige, elle était molle. Et quand on tire un traîneau qui pèse 115 kg, parce que c'était le poids du traîneau au départ, avec la nourriture, et bien, le traîneau s'enfonce dans la neige, les skis aussi. Et donc, on n'évolue plus du tout sur une surface qui est plane, qui est dure, qui est compacte. Et on évolue dans une espèce de soupe de neige. Et en fait, moi, j'étais, au lieu de parcourir 15 km par jour, j'en faisais deux fois moins. Et donc, très rapidement, je me suis dit, en fait, je ne vais pas mettre 50 jours à ce rythme-là. Il va me falloir 70, 80 jours pour y arriver, quoi, parce que je suis deux fois plus lent que ce que j'ai imaginé. Et donc là, il a fallu quand même faire preuve de trésor, d'inventivité, de motivation et de persévérance pour surmonter cette difficulté. J'ai vraiment allongé mes journées de ski en skiant 12 heures par jour, chose que je n'avais pas du tout anticipé. Moi, je pensais skier 8-10 heures max. J'ai commencé à me rationner, donc je mettais 10% de ma nourriture de côté tous les jours pour pouvoir être autonome pendant plus que 50 jours. Et voilà, psychologiquement, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour essayer de ne pas craquer, mais ça a été beaucoup plus difficile.
Et du coup, j'avais de l'aide, donc tu étais tout seul. Ouais. Parce que d'ailleurs, quand tu as dit à ton entourage, je pars tout seul faire cette expédition, comment ils t'ont accompagné dans ce...
Là, on était à un moment où ça faisait un petit peu moins de 10 ans que je partais à l'aventure. On l'a dit, en 4L, en kayak, à pied, en stop, les marathons dans le désert, etc. Et donc, bon, ils avaient compris que c'était mon truc quand même, les aventures un peu lointaines, sportives, etc. Et donc, ça faisait longtemps que j'en parlais de l'Antarctique, donc ça les a pas surpris outre mesure. Après, c'est arrivé plus vite qu'ils n'avaient imaginé, mais ils l'ont bien accueilli, parce que pour préparer cette aventure-là, moi, je me suis pas levé un matin en me disant que j'allais aller au pôle sud. C'est quelque chose qui était vraiment de longue haleine. Moi, j'ai Enfin, j'ai commencé les expéditions polaires il y a 5-6 ans en y allant avec des guides polaires professionnels qui m'ont inculqué les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bons réflexes, parce que c'est des environnements extrêmes, hein, les pôles. Et donc, il faut savoir monter une tente dans du vent fort, il faut savoir s'alimenter parce que tout gèle, il faut savoir s'habiller, il faut savoir naviguer. Et donc ça ne s'improvise pas. Et donc moi, j'ai multiplié les expéditions. J'ai passé peut-être 50 jours au Groenland, au Svalbard, en Norvège, en expédition, en conditions réelles pour apprendre, parce que moi, je suis normand, hein. Je suis pas né dans les Alpes, je connais bien la pluie en Normandie, mais moins la neige et le vent, et donc il a fallu apprendre tout ça, et donc ça s'est construit au fur et à mesure, et c'est vraiment en franchissant les étapes, en apprenant des personnes qui fréquentent ces régions polaires, que j'ai monté le projet. Et donc mes parents m'ont vu construire tout ça, ils ont vu le professionnalisme aussi avec lequel j'agissais, quoi, avec les sponsors, les médias, la préparation. Et en fait, ils l'ont encouragé. C'était, enfin, mentalement, psychologiquement, en me disant c'est bien, t'en es où, en me donnant éventuellement des conseils, mais sans leur leur soutien moral, ça aurait été impossible. Enfin, je veux dire, le faire contre la vie de mes parents, alors que bon, j'étais tout juste fraîchement diplômé, c'était quelque chose qui aurait été, je pense, infaisable, quoi. Et donc, j'ai toujours eu la chance d'avoir ce soutien-là, et depuis le départ, en fait, depuis mes aventures à vélo.
Ce qui est marrant, c'est que le rôle des parents, c'est un truc dont je me rends compte. Là, j'ai interviewé des personnes un peu de tous les âges. Mmh. Et les parents, même à 40 ans, les personnes qui changent de vie ou qui prennent un gros virage à 40 ans, le rôle des parents est encore hyper important, même si tu te dis, bah, toi, tu étais fraîchement diplômé, donc jeune, entre guillemets.
Ouais.
Et c'est fou de voir comme les parents, ils ont une place dans notre vie qui est hyper importante, quel que soit l'âge, dans ces grands changements, quoi, enfin, dans ces grandes décisions.
Ouais, je pense majeur, vraiment majeur, parce que c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est l'exemple qu'on a eu, et en bien ou en mal d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai une très bonne relation avec mes parents, mais je pense que quand on a des grosses difficultés familiales ou des tensions avec ses parents, c'est aussi des choses qui peuvent rejaillir dans plein d'expériences de vie. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être très bien accompagné par mes parents dans tous mes projets, et je les en remercie, parce que je pense qu'ils sont pas pour rien.
Mais ta maman, elle a pas, enfin, je parle de ta maman parce qu'en général les mamans sont plus protectrices de leurs enfants. Elle a pas peur, parce que tu vois, j'ai interviewé Cyril Després, qui est un grand champion de sport mécanique, qui a gagné le Dakar 4 ou 5 fois à moto. Et qui avait, je sais plus, 20 participations au Dakar. Il disait que à chaque fois qu'il partait au Dakar, sa maman, elle avait peur. Enfin, et même si, ce qui l'a rassuré, et ce qui rassurait aussi sa femme et ses filles, c'était justement ce que tu disais, de voir la préparation physique qu'il avait. Donc, en gros, il mettait vraiment toutes les chances de son côté pour revenir vivant. Mais bon, à chaque fois qu'il part, elles sont pas sereines.
Oui, non, mais moi, c'était le même cas de figure, quoi. Je pense qu'on aura beau rassurer autant qu'on veut des parents, ils restent inquiets. C'est naturel, c'est normal. L'inverse serait étonnant, j'ai envie de dire. Et donc, moi, ma maman et mon papa étaient évidemment inquiets de me voir partir. Après, il m'avait vu m'entraîner. Il savait aussi que, je te l'ai pas dit, mais il y avait tout un protocole de sécurité qui était en place. C'est-à-dire que moi, si je me blessais, j'avais un téléphone satellite, j'en avais même deux, si jamais j'en cassais un, pour notifier une base arrière que j'étais en difficulté, qui aurait pu venir me chercher avec un avion. Il y avait un médecin qui était basé sur la côte du continent qui aurait pu me prendre en charge. J'avais une balise GPS qui traquait mes mouvements, et si ça arrêtait de fonctionner pendant 48 heures d'affilée, que je le veuille ou non, on envoyait quelqu'un à ma recherche. Donc il y avait quand même tout ça qui était prévu, et donc ça, c'était quand même un moyen de rassurer. C'est jamais suffisant, parce qu'en Antarctique, il y a des crevasses, parce qu'il y a du froid extrême, parce que
il n'y a pas d'ours, comme on peut l'imaginer.
Alors non, il n'y a pas d'ours. Les ours, ils vivent en Arctique, donc ils vivent de l'autre côté. En Antarctique, c'est vraiment un grand, grand désert. Les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent antarctique, donc assez loin du pôle sud, et c'est des animaux souvent marins. Il y a des manchots, il y a des phoques, il y a des baleines, il y a des oiseaux, mais sur le centre du continent, il n'y a rien ni personne. Il y a quelques bases scientifiques ici et là, mais c'est un continent qui est immense, hein, qui fait la taille de l'Europe. Donc on est vraiment, vraiment seul au monde. Et donc, mes parents étaient forcément un petit peu inquiets. Après, moi, j'envoyais des nouvelles tous les jours.
C'était la question que je voulais te poser. Du coup, avec tes téléphones satellites, tu pouvais échanger avec eux au téléphone ?
Alors, j'appelais pas parce que, j'ai appelé à Noël et à l'arrivée, mais j'appelais pas pour deux raisons. La première, c'est que c'était c'était difficile un peu, on vivait des choses tellement différentes que c'est compliqué de partager vraiment, et puis je voulais rester un petit peu dans ma bulle, et puis aussi parce que c'est coûteux, ça prend du temps, c'est énergivore, donc il faut faire attention aux batteries, etc. Donc j'essaie de pas appeler, j'en ressentais pas vraiment le besoin d'appeler. En revanche, je ressentais le besoin de partager ce que je vivais, et ça je le faisais tous les soirs, enfin tous les soirs pour moi, et ça arrivait après sur les réseaux sociaux le matin pour les gens en France, où là pour le coup je bossais avec une agence à qui j'envoyais un texte et une photo tous les jours, et qui le partageait sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et pour tenir au courant mes proches, mes sponsors, mes partenaires de ce que je vivais. Et ça, moi, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais, d'essayer de mettre des mots sur ce que je vivais et de tenir compte un petit peu de mon avancée, de la manière dont je progressais, de mes pensées aussi, de ce que je vivais, de ce que je traversais. Et c'était un moyen de faire vivre par procuration l'expédition à plein de gens, comme plein d'aventuriers et explorateurs l'avaient fait pour moi, enfin avant, quoi. Moi, j'avais été inspiré par plein de gens, et donc je me suis dit, bah, c'est un bon moyen de faire vivre cette expédition.
C'était qui justement ces gens-là qui t'inspiraient ?
Il y a notamment Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si tu vois, mais qui est un médecin, médecin explorateur qui a parrainé mon expédition, et moi qui m'a énormément inspiré par ses bouquins quand j'étais plus jeune. Mais sinon, il y en a plein d'autres qui sont des explorateurs historiques du pôle, comme Amundsen, comme Scott, où ça, c'est vraiment les personnes qui ont découvert le pôle Sud, enfin, en tout cas qui l'ont atteint pour la première fois et qui en ont tiré des récits, des livres fabuleux. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut vivre quasiment tout en direct. Il faut voir Thomas Pesquet quand il est dans l'ISS, qu'il envoie ses photos, tout ça.
C'est incroyable.
Très interactif. Et je trouve hyper inspirant. Et donc, moi il n'était pas question de faire ça, sans essayer de le partager en direct. La difficulté, c'est de bien s'organiser pour pas que la communication prenne le pas sur l'aventure, parce que si on fait cette photo uniquement parce que on pense au poste qu'on vit plus le moment présent, c'est difficile. Donc faut toujours le faire avec parcimonie, parce que sinon ça peut devenir aussi un peu un piège que de se dire on fait ça pour partager alors qu'au départ on fait ça quand même pour soi.
Ça, je pense que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, Cyril Després, il disait, il a gagné, mais il n'a pas gagné pour gagner, pour l'argent, pour la célébrité. Enfin, il a gagné pour gagner, il n'a pas concouru pour l'argent ou la notoriété. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort aussi à chaque fois que j'interviewe quelqu'un qui a réussi. C'est la raison profonde pour laquelle tu fais la chose qui fait que tu réussis et qui fait que la chose est pure et qui est alignée avec soi, qui fait que du coup, ça se passe bien plutôt que de le faire pour des mauvaises raisons qui pourraient être en effet juste faire la photo pour un post Insta ou Facebook.
Ouais, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est vrai que moi, si je reprends l'exemple de mon expédition, j'ai choisi d'assumer à 100% que je faisais cette expédition pour moi et que c'était un rêve de gosse, c'était la vérité. Mais je préférais l'assumer plutôt que d'essayer de le masquer derrière une cause environnementale ou écologique. Non pas que je sois pas sensible, évidemment pas, mais en fait, en m'interrogeant, parce que je me suis posé la question, je trouvais que c'était un petit peu malhonnête en fait que de dire à tout le monde, à mes sponsors, mes partenaires, je vais faire cette expédition pour réveiller les consciences et en fait, je ne m'y reconnaissais pas du tout parce que ce n'était pas la vérité. Et donc, je trouvais qu'il valait mieux essayer d'assumer ça et de trouver des partenaires qui se reconnaissent dans cette vision de dépassement de soi, de vivre ses rêves, de prise de risque. Et puis, éventuellement, porter le message de l'environnement, de l'écologie, de l'importance de préserver cette terre antarctique qui, aujourd'hui, est une terre qui est le bien commun de l'humanité, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'activité militaire ou économique là-bas. Mais que ça vienne en second plan, ou alors carrément faire une expédition scientifique, mais à ce moment-là que... voilà, la raison d'être de l'expédition soit scientifique. Ouais. Mais à partir du moment où moi, c'était mon rêve d'aller au pôle Sud et que je rêvais de faire une expédition un peu à l'ancienne en ralliant le pôle Sud en ski et en traîneau, et je trouvais qu'il fallait raconter cette histoire plutôt que d'en raconter une qui ne correspondait pas. Donc je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, moi, je trouvais que on n'est jamais perdant à être honnête et à raconter la vraie histoire. Et moi, c'est ce que je voulais faire parce que c'est évidemment ma façon d'être.
Et du coup, tu disais, donc, tu as eu une période assez compliquée quand tu t'es rendu compte qu'il allait commencer à falloir rationner ta nourriture et tout. Psychologiquement, tu t'étais préparé, comment t'as géré ça ?
Mais déjà, j'avais cette marge de manœuvre un petit peu parce que j'avais vu gros sur la nourriture. Enfin, 50 jours, c'était raisonnable. Donc, j'avais cette contrainte de temps parce que je pouvais pas mettre beaucoup plus que 50 jours pour arriver au pôle. Mais je sais que j'étais pas non plus trop ric-rac au niveau de la nourriture. Il y avait d'autres expéditions en même temps que moi qui, elles, avaient vu un peu à la baisse leurs réserves de nourriture et qui, elles, ont malheureusement abandonné parce que elles étaient, pour le coup, elles étaient impossibles pour elles d'atteindre le pôle avec si peu de nourriture. Moi, comment j'ai fonctionné, j'avais pas préparé tellement ce cas de figure là. Moi, je savais qu'il allait faire froid, qu'il allait avoir du vent, qu'il pouvait y avoir des crevasses et qu'il fallait faire face à ça. Mais la neige molle, c'était vraiment quelque chose qui a surpris tout le monde. Enfin, il y a eu cette expédition quand j'étais en Antarctique, on n'est que deux à être arrivés au pôle, tellement les conditions étaient compliquées et les cinq autres ont abandonné dans les trois premières semaines à cause de cet enneigement inhabituel. Donc, moi, si j'ai tenu le coup, c'est pas tellement parce que j'étais le plus musclé ou le plus préparé parce qu'on était tous prêts à vivre cette aventure-là, mais je crois qu'au fond de moi, je me disais que tant que j'étais sur mes skis, tant que j'étais pas blessé, j'avais la ressource pour trouver des solutions. Et donc ça, c'était se rationner, c'était essayer de me concentrer que sur des petits objectifs, c'est-à-dire de jamais penser à l'arrivée et de jamais penser à ce pôle sud parce que c'était trop loin, c'était trop difficile d'envisager une telle distance, une telle solitude, une telle souffrance d'une certaine façon. Et donc psychologiquement, je me disais voilà, je skie pour une heure, après je fais une pause de 5 minutes, je reskierai pour une heure, je referai une pause de 5 minutes. Et en fait, mon esprit fonctionnait que comme ça, que sur les trucs très court-termistes, qui étaient vraiment en fait autant de petits objectifs, autant de petites victoires, et ça s'additionnait. Et en fait, le fait de déconstruire l'aventure en plein de petits morceaux qui sont rapidement atteignables, ça m'a fait tenir le coup. Et puis il y avait quelque chose que Jean-Louis Etienne m'avait répété et dit avant de partir et qui m'a aidé à tenir. C'était: Mathieu, quand ce sera difficile, essaye de remettre ce rêve de pôle sud qui t'anime à la surface en permanence. Et ça, c'est vraiment un truc moi qui m'a marqué parce que effectivement, quand il y a la neige molle, quand il y a du whiteout, qui est une espèce de brouillard blanc qui enveloppe tout le champ de visibilité, quand on a froid, quand on se sent vraiment seul, on essaie de se rappeler les raisons qui nous ont poussé à entreprendre l'aventure. Et ça remet un petit peu les choses à leur place. Et on se dit, j'ai fait le choix d'être là. J'ai aussi un privilège énorme que de voir ce continent, l'intérieur de ce continent qui est quand même difficile d'accès. Et j'essaie vraiment de me rappeler les choix que j'avais faits pour arriver là. Et ça m'a aidé à tenir. Mais vraiment, les petits objectifs et le rêve très profond qui m'animait ont été les deux seules choses qui m'ont aidé à tenir. Et puis le fait de savoir qu'il y avait du monde qui me soutenait et qui me regardait, c'était aussi une source de motivation.
Je pense que c'est pas ça. Je trouve que ce qui est génial dans l'aventure, mais aussi dans tout ce qui est défi sportif, il y a plein de parallèles, je trouve. C'est un peu la vie qui est de façon exacerbée, en fait. Et souvent, on dit, quand des gens traversent des galères, on dit souvent, décompose en mini-objectifs. Et je trouve que c'est une super métaphore de la vie et de la façon dont il faut vivre les moments difficiles dans sa vie, en fait.
Mais je crois, et on n'est pas du tout obligé d'aller au pôle sud ou en Antarctique pour utiliser cette stratégie-là. Je pense que quand on se met à apprendre un instrument de musique ou une nouvelle langue, si on se dit tout de suite je vais être bilingue ou faire le concerto de je sais pas qui, forcément on n'y arrive pas, quoi, parce que tout n'est que cheminement, progression et étape. Et donc je pense que c'est cette stratégie de petits objectifs, de petites victoires, de décomposition d'un objectif ambitieux en plein de petits objectifs facilement atteignables, c'est quelque chose qui permet de viser loin et d'avancer sereinement, quoi. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé en Antarctique, parce qu'encore une fois, c'est un environnement qui est désertique, qui est très pauvre sensoriellement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur, il y a très peu de couleurs, c'est vraiment des variations de tons de blanc, de gris, mais c'est tout, quoi. Et donc il faut savoir composer un petit peu avec son esprit et avec des sources de motivation tous les jours.
Et c'est quoi du coup maintenant ton rêve, maintenant que tu as fait ça, c'est quoi ton prochain rêve?
Je sais pas exactement. Là, je suis en train de terminer l'écriture d'un récit sur cette aventure en Antarctique. Il y a eu un documentaire qu'on a fait assez vite et qui passe aujourd'hui sur Ushuaïa TV. Et là, je suis en train de finir l'écriture d'un livre qui sortira normalement la première semaine de novembre chez Robert Laffont. Et ça, quand j'aurai publié le bouquin, je serai arrivé au bout de cette expédition antarctique, parce que pour moi, la boucle sera bouclée. Il y aura eu l'expé, il y aura eu un film, il y aura eu un livre. Donc là, ce sera peut-être le moment de réfléchir à d'autres aventures. Aujourd'hui, je sais pas encore où je me dirige parce que j'ai pas fini le livre, et donc j'essaye de bien faire ça à fond, parce que si je commence à préparer d'autres choses, je sais que je ferai pas tout très bien finalement. Donc j'aime bien me concentrer sur une tâche à la fois. Mais pour te donner un élément de réponse, moi j'aimerais bien qu'une prochaine aventure puisse servir une cause ou un message et me rendre peut-être utile à mon échelle pour quelque chose qui me dépasse. La dernière expédition, c'était vraiment la réalisation d'un rêve perso, d'un rêve de gosse. Je pense que c'est génial de l'avoir vécu. Si aujourd'hui, je peux essayer de me rendre utile ou en tout cas de porter un message et que ce message soit l'origine d'une expédition plutôt que le contraire, ça me rendrait très heureux. Alors, je ne sais pas encore dans quelle direction j'irai. Ce qui est sûr, c'est que ça ne manque pas de causes et de combats aujourd'hui. Donc, on verra bien. Bon, après, en termes d'expédition, moi, j'aime bien les déserts d'une manière générale, qu'ils soient chauds, froids ou marins. Donc, peut-être dans un désert, mais je ne sais pas encore. J'attends de tenir ce bouquin dans mes mains avant de m'y intéresser sérieusement.
Oui, en fait, finalement, c'est que tu as créé ton contenu en vivant l'expédition et maintenant, tu en crées plein de mini-contenus dérivés, ouais. Entre guillemets.
Oui. Et puis moi, j'ai du plaisir aussi à le faire. Enfin, il y a quelque chose que les gens ne réalisent peut-être pas complètement quand on dit on est aventurier ou explorateur professionnel, mais c'est que... En fait, on passe peut-être 10%, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais 10% de notre temps sur le terrain et puis 90% du temps restant à préparer l'aventure ou à la partager. Moi, j'ai passé 2 mois en Antarctique à effectivement skier vers le pôle sud, mais avant ça, j'avais passé 1 an et demi à chercher des fonds, des partenaires et des années à me préparer. Et puis aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis rentré et que j'ai fait un film, que j'ai écrit un bouquin, que je fais des conférences dans les écoles et dans le milieu et dans les entreprises. Et j'ai beaucoup de plaisir aussi à le faire. Et je pense que si j'aimais pas le faire, il faudrait changer de métier, quoi, parce que en fait, c'est la face cachée un petit peu de toutes ces aventures, c'est qu'elles demandent beaucoup de persévérance dans la préparation et puis après beaucoup d'enthousiasme, en tout cas de temps et d'énergie pour les partager.
Ouais. Bon, heureusement que ça te plaît, sinon ça serait triste. Et dans les conférences, tu as créé avec ton ami d'enfance Beyond les nouveaux aventuriers. Ça consiste en quoi du coup ce projet?
Alors,
fou.
On a créé cet événement qu'on a intitulé Beyond, qui veut dire en anglais un petit peu au-delà, les nouveaux aventuriers. En fait, c'est l'idée de se dire qu'on n'est pas obligé d'être des aventuriers pro ou des explorateurs ou des Mike Horn pour vivre des aventures. On essaye de faire venir en fait des personnes qui ont fait des choix, un petit peu comme toi d'ailleurs sur ton podcast, pour qu'elles viennent nous partager leurs clés, leur façon de voir la vie et essayer d'impulser un déclic chez les gens qui participent à cette conférence. En fait, on voulait pas faire une conférence classique, dans la mesure où on voulait pas juste faire venir des intervenants et un public qui écoute. On veut en fait que le public assiste et soit acteur en fait de cette conférence-là. Donc pour ça, on a un metteur en scène qui vient mettre en scène complètement l'événement, où en fait le public est positionné d'une certaine façon, a des choses à faire avec leurs voisins, et donc c'est extrêmement interactif. Ça change tous les ans et on fait venir des intervenants différents tous les ans. On fait ça avec on appelle ça nouveaux aventuriers parce qu'on met un accent sur un peu la jeunesse. On essaye de faire venir des intervenants qui ont moins de 35 ans pour montrer que on devient aventurier, on n'est pas aventurier, quoi. C'est un parcours de vie. Et donc on fait venir aussi bien des chefs cuisiniers étoilés que des glaciologues qui partent en Antarctique faire des mesures scientifiques, que des éco-aventuriers qui font des aventures éco-responsables, que des gens qui vont traverser l'Atlantique en solitaire. On essaye de montrer que l'aventure, elle se vit à toutes les échelles, dans tous les domaines, et que c'est un état d'esprit et que c'est accessible. Et donc le message passe grâce un petit peu à cette expérience collective, moi que je ne connaissais pas du tout, grâce à la mise en scène d'un garçon qui s'appelle Éloi Saint-Brice, dont c'est le métier.
Et du coup, le prochain est planifié ou pas encore?
C'était pour le mois de juin, ça devait être à peu près maintenant. Alors évidemment, avec la crise sanitaire qu'on a vécue et l'interdiction des rassemblements, on a décalé ça. On est en train de regarder, mais c'est tout nouveau parce qu'on a des bonnes nouvelles encourageantes, mais peut-être pour le faire en octobre de cette année, donc en octobre 2020. Ce qui est sûr, c'est qu'habituellement, c'est un événement qui a lieu en toute fin de printemps, tout début d'été, à Paris. On a fait déjà 2 éditions qu'on réunit à peu près 200 personnes qui ont marché très fort, donc c'est hyper encourageant pour continuer à en faire. En tout cas, on a déjà shortlisté les speakers, il manque plus qu'on trouve la salle et que les signaux soient ouverts sur le plan sanitaire pour qu'on puisse se rassembler.
Bon, je suivrai ça et puis je le partagerai à la communauté. C'est un événement qui, surtout qu'en plus ton j'allais dire en anglais, mais ta baseline, ta baseline, c'est ne nous faites pas rêver, faites-nous oser, qui correspond complètement à la philosophie, pourquoi pas moi, de se dire allez-y, quoi, on peut y aller.
Exactement.
À ton avis, qu'est-ce que le petit Mathieu de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui?
Ah, je pense qu'il serait étonné de voir la voie que j'ai empruntée, parce que je crois que le petit Mathieu, il rêvait de Pôle Sud, il rêvait de Tour du Monde, et ben, je pense qu'il serait, il serait étonné, il serait peut-être un petit peu fier de voir que le Mathieu actuel ait eu le courage à un moment de se dire que c'était bon, qu'il fallait y aller, qu'il fallait arrêter de rêver, mais qu'il fallait oser, comme on le disait. Mais peut-être qu'il lui dirait aussi de prendre le temps de ralentir, ou en tout cas de pas faire les choses, enfin de faire les choses dans l'ordre, et de pas vouloir non plus trop s'éparpiller, de se concentrer, de faire les choses à fond. Moi, ça m'est arrivé peut-être de faire un petit peu de trucs en même temps, et puis d'être un petit peu déçu parce que bah ça aurait pu être mieux. Donc je pense qu'il serait étonné quand même. Je pense qu'il serait étonné parce que, et moi je m'étonne moi-même quand je réalise que j'ai atteint le pôle sud. Parfois je me réveille le matin et je prends dans la douche et j'y repense et je me dis c'était quand même dingue, c'était un peu comme dans un rêve quoi, parce que voilà, c'était assez fabuleux que d'atteindre l'axe de rotation de la Terre après 50 jours de marche dans un grand désert aussi blanc, mystique et fabuleux que l'Antarctique. Donc ouais, je pense qu'il serait content pour moi.
Qui dit choix dit renoncement, quels sont les tiens?
Mais la réalité d'une vie un petit peu d'aventurier, c'est que bah on a des activités professionnelles indépendantes, et donc comme tous les indépendants, on bosse un petit peu tout le temps, ou en tout cas on a souvent l'esprit tourné vers sa propre activité, et donc il faut faire des choix. Je pense que parfois faut savoir couper, mais voilà, parfois je regarde un peu avec envie mes potes salariés qui, quand ils sont en week-end, sont vraiment en week-end. Et puis d'un autre côté, je me dis que j'ai pas du tout envie d'être salarié parce que moi je peux faire ce que je veux. Mais après, c'est toujours une histoire de balance et de choix. Mais on renonce peut-être un petit peu, en tout cas quand on est aventurier, à une vie peut-être un peu plus sédentaire, un petit peu plus classique, avec des relations peut-être un petit peu plus stables ou plus ancrées. Parce que voilà, moi il y a plein de choses qui me font rêver. Si on me dit demain, bah on revient, on va en Antarctique 3 mois, bah je dis oui tout de suite. Donc on renonce peut-être à une vie un peu plus stable, un peu plus posée, un petit peu plus calme. Moi aujourd'hui voilà, j'ai 28 ans, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire, donc je suis un petit peu comme un électron libre, mais je suis sûr que ce côté un peu stable et sédentaire arrivera un jour. Mais en tout cas, j'ai un
Parce que
petit peu renoncé.
pour avoir une vie de couple, ça ne doit pas être simple.
C'est pas simple, mais voilà, on peut. Il y a des personnalités qui s'adaptent aussi bien à ça. Il faut être bien, je pense, aligné avec les envies de chacun. C'est pas impossible, c'est pas impossible du
Ah non,
tout.
c'est pas impossible, heureusement.
Ouais. Mais ça demande de bien communiquer, ouais.
Ouais, c'est sûr. Pour toi, par rapport à tout ton parcours, ça a été quoi ta plus grande difficulté et comment tu l'as gérée?
Ma plus grande difficulté, c'est peut-être de dépasser en fait les conseils qu'on vous donne. Ça peut paraître un petit peu contraire à ce que j'ai pu dire en disant qu'il fallait pas hésiter de demander conseil, etc. Mais il y a un moment, en fait, il faut s'écouter soi. Et tous les conseils qu'on nous donne, il faut les écouter, les prendre, mais il faut pas non plus les ériger en dogme ou en ligne rouge, parce que finalement, voilà, enfin, moi, si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, j'allais mourir en Antarctique, j'allais tomber dans une crevasse, ou quand j'allais partir à vélo tout seul vers Istanbul, j'allais pas revenir, ou c'était une bêtise parce que j'avais jamais fait de vélo. Donc, je pense que, ouais, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est de réussir à un moment à prendre suffisamment de conseils pour se faire confiance soi, et puis ouais, faire le premier pas quoi. Une fois qu'on a engrangé la machine, il y a plus que des petits problèmes à surmonter, mais le plus difficile, c'est vraiment ça, c'est faire ce premier pas, qu'on veuille partir en expédition, ou qu'on veuille voilà monter un podcast, une boîte. À un moment, faut se convaincre et intérioriser le fait qu'on y aille, et c'est vraiment ce passage-là qui est le plus dur. Et donc moi, la plus grosse difficulté, c'était peut-être de me heurter un petit peu au conseil des uns et des autres qui étaient contraire, mais voilà, c'était un peu de rassembler cette énergie, cette motivation, ce feu intérieur qui fait qu'à un moment ça jaillit et qu'on y arrive.
Il faut vraiment savoir se faire confiance à un moment et te dire bah oui, ça correspond pas au cas, ça correspond pas forcément à ce que les autres ont fait, mais finalement, si on réfléchit, il n'y a rien de grand qui a pu apparaître si on faisait toujours comme les autres en fait.
Ouais. Alors, je sais pas si c'est grand, mais effectivement, je pense que on s'épanouit, je pense, en traçant sa propre voie. Ou en tout cas, c'est une source d'épanouissement géniale. Moi, enfin, le métier que je fais, il est pas très codifié, et puis il est éminemment changeant, et je fais plein de choses différentes, et je suis en contact avec plein de gens différents, et moi, ça me ressource énormément, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je dis pas que dans les métiers un peu plus classiques, on n'a pas ces sensations-là, mais en tout cas, je pense que je retournerai pas en arrière, quoi. J'aime beaucoup cette vie d'indépendant et de création un petit peu de nouvelles expériences autour du monde.
Ouais.
Ou plus local,
oui,
aussi, d'ailleurs.
Parce que t'as la vraie, enfin, il y a comme tu disais, tu te rapproches d'un artiste, mais finalement, il y a beaucoup de créativité dans ce que tu fais. Alors, c'est pas la créativité, tu peins pas un tableau, mais par l'écriture, par la photo, enfin, c'est, et puis, les événements, c'est une sorte de créativité. Et souvent, dans la créativité, bah oui, faut, enfin, on peut s'inspirer, mais c'est sa façon à soi de vivre la chose, quoi.
Complètement. Mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi, hein. Moi, jamais j'aurais pensé tout de suite être capable de faire un bouquin, de faire des films. C'est quelque chose qui s'apprend en faisant aussi. Et ça me plaît beaucoup, de continuer à apprendre toujours, tout le temps, de faire de nouvelles choses.
Ouais, ça fait peur au début, mais il faut y aller. Faut pas.
Exactement. Ouais.
De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Je pense que je suis fier d'avoir réussi à croire en certains rêves, ou en tout cas de pas avoir laissé s'échapper ces rêves-là. Parce que l'expédition Antarctique, c'est quelque chose que je me suis créé, qui avait aucune utilité dans la mesure où, on a déjà découvert le pôle Sud. D'ailleurs, il y a une base scientifique américaine qui est installée depuis 1957, il me semble, que des expéditions en Antarctique ont déjà été faites. Mais je suis fier justement de m'être tenu accroché à ce rêve-là, parce que moi, c'était important pour moi, et tout aurait pu me pousser à abandonner une fois sur place, mais aussi avant de partir, parce que c'est des expéditions qui sont coûteuses, c'est difficile de trouver des partenaires, des sponsors, et c'est faut vraiment faire preuve d'une grande persévérance et d'adaptation, et quand on fait face au refus des sponsors, etc. Donc ouais, je pense que je suis fier d'avoir mené à bout certains rêves qui m'animaient depuis que j'étais jeune.
Ouais. Et si tu croises des personnes qui te disent, bah, en fait, tout ça, t'as vachement de chance, en fait, c'est lié qu'à la chance, ton parcours, qu'est-ce que t'as envie de leur répondre?
J'ai envie de dire qu'ils ont peut-être raison d'une certaine façon, parce que j'ai peut-être eu des facilités au départ, dans la mesure où je suis né dans un contexte social et familial qui était privilégié, et que évidemment, si j'avais dû subvenir à mes propres besoins tout de suite après le bac, j'aurais peut-être eu des difficultés à monter des expéditions tout de suite, ou peut-être que ça aurait pas été la priorité dans un premier temps. Donc d'une certaine façon, oui, ils ont raison, j'ai eu de la chance. Après, j'ai saisi cette chance pour entreprendre une voie un petit peu alternative, un peu différente, pour essayer de créer quelque chose de différent. Mais je pense que la chance, elle s'arrête aussi à un certain moment, c'est-à-dire que il y a aussi une part de choix. Je pense que la chance, on le dit souvent, mais c'est quelque chose qui se provoque, qui se crée, c'est en faisant preuve de curiosité, en se retournant des bonnes personnes, qu'il y a des planètes qui s'alignent. Oui, je pense que d'une part, il y a de la chance au début. Après, il faut savoir cultiver, entretenir cette chance pour créer des choses grandes, quoi. Tout n'est qu'une affaire de choix à un moment. Moi, c'est quelque chose que j'ai impulsé depuis longtemps, et tout n'est qu'une progression, un cheminement, une construction. Et voilà, moi, j'aurais jamais atteint le pôle Sud si j'étais pas parti à vélo. On en revient 10 ans plus tôt, quoi. Donc oui, il y a une part de chance, mais il y a aussi, je pense, une part de travail et de persévérance.
C'est sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Un conseil Ouais, je pense ne pas. On revient sur la notion un peu de conseil et de préparation, mais ne pas accorder trop d'importance peut-être à la préparation d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à se braquer ou à se freiner parce qu'on se dit je suis pas prêt ou j'ai pas le bon micro si je fais un podcast
C'est marrant que tu dises ça parce que moi je voulais pas me lancer tant que j'avais pas du bon matos. Et Mathieu Stéphanie m'a dit un jour, parce que je le connais personnellement, il m'a dit écoute, utilise mon matos et après tu te lanceras, tu l'achèteras et compagnie. Donc j'ai attendu qu'il me prête son matos, après j'ai investi, mais sauf qu'aujourd'hui là on est en Skype, donc autant te dire que j'ai pas du tout du matos pro là pour t'interviewer. Et en fait je me suis dit mais ouais, je me serais mis une barrière complètement con, alors qu'aujourd'hui bah je fais les interviews sans matos pro quoi,
mais puis il y a une phrase anglaise d'ailleurs qui dit done is better than perfect, je crois, c'est fait est mieux que parfait, et en fait je trouve ça très vrai quoi, c'est on a tendance à se dire non, il me faut le meilleur micro, il me faut le meilleur vélo, et en fait c'est juste une manière de retarder l'affaire. Donc, moi j'aurais bien aimé qu'on me donne ce conseil parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé assez tard, en fait. Je suis quelqu'un qui est peut-être un peu méticuleux, qui aime bien faire les choses bien, mais à un moment, si on n'a pas le bon micro, c'est dommage de ne pas se lancer dans la création de ce podcast ou c'est dommage de ne pas se lancer dans cette aventure à vélo dont on rêve, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment l'expérience et ce qui s'en dégage et de ce qu'on en fait, quoi. On peut partir avec le meilleur vélo ou avec le meilleur micro si on raconte rien d'intéressant ou si le sujet n'est pas intéressant ou si le voyage est pourri, on n'en retire rien de très bien, quoi. Donc, peut-être ça, ne pas accorder trop importance à la préparation ou au matériel.
Ouais. C'est quoi tes prochains défis du coup ?
Mon prochain défi, ça va être de finir l'écriture de ce livre. Je suis en bonne voie parce que l'éditeur l'a déjà lu une fois et j'ai des retours très positifs. Et donc maintenant, il faut vraiment terminer les textes, mais ça se rapproche. Après, il y aura la sortie de ce livre-là. Il y aura la préparation de la troisième édition de Beyond, de la conférence Beyond. Et puis, ce sera peut-être qu'il faut que je réinvente un peu ma façon de faire des conférences aussi, parce que moi, mon système économique repose pas mal sur les conférences. Les expéditions sont financées par des sponsors et des partenaires, mais moi, je paye mes factures et mon loyer avec des interventions. Et là, il se trouve que, avec les interdictions de rassemblement, c'est compliqué. Donc, j'ai peut-être un petit défi justement là-dessus pour essayer de réinventer un peu cette façon de faire les conférences avec peut-être des webinaires, des choses en ligne que je pourrais valoriser. Donc voilà un petit peu pour le côté pro. Ce qui est sûr, c'est que pour le côté aventure, il y aura d'autres expéditions, il y aura d'autres voyages, mais te dire où, quoi et comment, je ne sais pas encore. J'ai des idées, mais rien de très concret encore.
On en reparlera. Ouais. Et avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ?
Moi, je crois que je dirais merci à la personne qui a parrainé mon expédition en Antarctique dont on a parlé, qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Donc, c'est un monsieur qui est dans ses 70 ans, qui a une expérience des pôles nord-sud et des mondes polaires de manière générale titanesque, qui a écrit des bouquins fabuleux sur la persévérance, sur le dépassement de soi, sur la motivation. Et moi, qui m'ont éminemment inspiré, parce que Jean-Louis, il a un parcours très singulier. Il ne devait pas avoir son bac. Et puis finalement, il a fini par être chirurgien. Et après, a traversé l'Antarctique de part en part. Premier homme à avoir atteint le pôle Nord en 86. Donc, il a un petit peu... on n'aurait pas parié sur lui à l'époque, et moi il m'a beaucoup inspiré dans ses bouquins, et je pense que si j'ai entrepris tout ça, notamment dans les mondes polaires, c'est un peu grâce à lui. Donc je dirais merci à Jean-Louis Etienne.
Super, merci beaucoup Mathieu.
Merci à toi et à bientôt.
À bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous ai mis tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co pour suivre les prochaines aventures de Mathieu et revivre celles passées. Jeudi prochain, je vous propose une nouvelle très belle personne qui est en train de changer de vie. Grâce au format En Chemin, vous pourrez suivre tous les 3 mois là où elle en est. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?